Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va évoquer la réforme de l'assurance chômage. On a désormais tous les détails qui feront qu'on passera de période rouge à période verte. C'est le pivot, c'est un taux de chômage à 9%, mais avec également une évolution forte. Une hausse par exemple de 0,8 points ou plus de 0,8 points peut faire basculer en période rouge, la période où il y a le maximum d'indemnisation, c'est-à-dire 24 mois pour celui qui a moins de 53 ans et qui a tous ses droits. Voilà, c'est une bien sage réforme du chômage, écrit ce matin l'éditorial des Échos. C'est un plus qu'un appel du FMI envers la France. Le FMI considère que rien ne va au niveau des finances publiques, de la dette et du déficit. La France, c'est le seul pays qui fait monter sa dette, nous dit le Fonds monétaire international. Vous devez réformer l'assurance chômage, réformer les retraites, réduire les niches fiscales, baisser les dépenses. Enfin voilà, les choses sont très claires. C'est par le menu comment réformer le pays pour essayer de retrouver une dynamique de désendettement. On évoquera les retraites d'ailleurs avec la une d'Alternatives économiques. Retraite, pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ, nous dit la une du numéro de novembre. Emmanuel Macron dîne ce soir avec les industriels. Il veut tout simplement les inciter à ne pas aller chercher un kilowattheure moins cher hors de France. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui commencent à se poser très sérieusement des questions, notamment pour les plus consommatrices d'énergie. Et puis on verra si c'est bien aussi simple que prévu le fameux guichet pour les entreprises en 2023 lié à l'explosion des prix de l'énergie, parce que Bercy nous dit qu'ils ont tout simplifié et que désormais, les inquiétudes qui avaient été celles des industriels sont normalement apaisées. Isabelle Job-Basile, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Christian Chavagneux, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste à Alternatives économiques, vous avez publié les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff au seuil. Et donc la une du numéro de novembre qu'on va voir s'afficher à l'écran. Retraite, pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ. Je vous rends la parole dans un instant. Et Laurent Vansky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité. Ah non, il faut dire autre chose.
Membre du comité stratégique d'Espérance Banlieue.
Membre du comité stratégique d'Espérance Banlieue. Je l'avais écrit à la main la fois dernière et j'ai oublié de corriger. Espérance Banlieue, vous le savez, c'est ce réseau d'écoles qui a été initié il y a maintenant 10 ans.
Absolument.
Par des anciens, pour la plupart, des anciens du privé.
Des entrepreneurs.
Des entrepreneurs, voilà. Et il y a combien d'écoles aujourd'hui ?
Nous espérons bientôt de 18.
D'accord. La semaine particulière d'Alternatives économiques, Christian Chavagneux.
Oui, c'est nos journées de l'économie autrement. Il y a le printemps de l'économie à Paris, il y a les GECO à Lyon, il y a la rencontre d'Aix. Il y a en fait 4 grandes réunions cette semaine. C'est les journées de l'économie autrement. On va avoir Philippe Martinez pour débattre des retraites, Valérie Masson-Delmotte pour débattre du climat. On va avoir Lucas Chancel sur les inégalités. On va avoir quelqu'un que les gens d'ici connaissent très bien, parce que c'est Xavier Fontanel, ancien patron d'Essilor, mais qui va venir débattre des mondialisations. Franchement, on a un super programme. Allez voir sur le site, les journées de l'économie autrement, c'est à Dijon, c'est 2000 personnes par an qui viennent, c'est quand même un bel événement, on est content de l'organiser cette semaine.
Donc c'est cette semaine, les dates précises.
C'est vendredi et samedi.
Vendredi et samedi, et accès ouvert.
Accès ouvert, tout à fait, bon. Et quelques grandes, pour les vedettes en quelque sorte, ce sera retransmis sur YouTube pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer à Dijon.
D'accord, et le site, c'est un site dédié ou c'est le site d'Alter Eco ?
Journée de l'économie autrement.
Journée de l'économie autrement à Dijon.
Tout à fait.
À la fin de cette semaine, organisée donc par Alternatives économiques. Je voudrais prendre des nouvelles de votre facture d'énergie 2023. On a eu celle de Sylvain Aurébi qui est passée pour les boutiques simplement de 150 000 euros en 2022 à 680 000 euros en 2023. Hervor est une entreprise industrielle. Et alors, ça donne quoi ?
Bah écoutez, l'échéance se rapproche puisque...
Fin décembre, je crois.
Oui, c'est ça, le 31 décembre à minuit 1. Donc je ne sais toujours pas ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que je rappelle que nous avons été sollicités par notre fournisseur actuel d'énergie, donc gaz et électricité. On a commencé à fin septembre avec une proposition de renouvellement de contrat à x50. Donc là maintenant, si vous voulez, avec négociation, le fait de pouvoir alerter les pouvoirs publics, de pouvoir faire d'en parler dans les médias, etc. Donc là maintenant, on arrive entre, je dirais, x18 et x15, ce qui est quand même complètement délirant. On ne sait toujours pas ce qui va se passer, et le dispositif d'aide qui a été mis en place, je veux dire, il y a un gigantesque trou dans la raquette. Alors je ne vais pas passer une demi-heure à l'expliquer, mais très simplement.
Je rappelle juste une chose, Laurent. Donc Bercy avait mis en place un premier guichet pour les entreprises, beaucoup trop complexe, avec des conditions d'accès imbitable, disons les choses. Bon, en réalité, personne pratiquement n'a eu recours à ce guichet. Là, ils nous disent, ça y est, on a tout nettoyé, tout facilité, tout simplifié. Tu vas sur le site de la DGFiP, tu remplis ton petit dossier. Si globalement, tu as une facture d'énergie qui dépasse 3% de ton chiffre d'affaires, tu as de grandes chances d'être éligible à ces dispositifs qui ont plusieurs paliers d'indemnité, le premier étant à 4 millions d'euros. Alors, je me dis que vous devez être dans les clous.
Alors justement, non. On n'est pas, et je pense que c'est le cas d'énormément de PME. C'est-à-dire qu'en clair, le dispositif qui est en place, et encore une fois, je ne revendique pas, je ne critique pas, soit vous êtes tout petit, c'est-à-dire qu'en clair, vous avez un abonnement électrique qui est digne d'un gros particulier, soit vous êtes très gros. Les fameux 3% que vous citez, en clair, il faut qu'en 2021, la facture représente 3% de votre chiffre d'affaires. Mais en 2021, pour la plupart des entreprises comme la mienne, il n'y avait pas de problème, puisque nous avons des contrats à terme. Donc c'est soit un an, soit trois ans. Donc je dirais, nous en 21, on n'avait pas de soucis. On avait donc une facture qui représentait moins de 3%. Le seul problème, c'est qu'avec les taux complètement délirants qu'on nous propose, à partir du 1er janvier à minuit une, là on va avoir une facture énergétique qui va exploser, et là on va très largement dépasser les 3%. Mais en clair, on ne satisfait pas les critères.
Donc, au 1er janvier, vous satisfaisiez les critères.
Mais non, puisque c'est 3%
de 21. Oui, mais ça va avancer. Ah bah de 22.
Je ne sais pas si ça va avancer, mais en clair, la question qui m'est posée, c'est de savoir si oui ou non on a de la visibilité sur notre facture énergétique. La réponse est non. Deuxièmement, je pense que, on va en parler dans cette émission, l'État est surendetté. Et je sais que beaucoup de gens croient à l'argent magique. Moi, je n'y crois pas. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, tout mettre sur le tableau de l'État. Et donc, moi, aujourd'hui, je dois vous dire que je ne sais pas ce qui va se passer pour nous, mais comme des centaines de milliers d'entreprises, et nous ne pouvons pas aujourd'hui augmenter nos prix de vente dans des proportions identiques. Donc, nous espérons que d'ici un mois, puisque globalement la France va commencer à s'arrêter de travailler à partir du 15-20 décembre, c'est la trêve des confiseurs, nous espérons qu'il y aura soit des conditions de marché, soit des systèmes qui vont nous permettre de pouvoir avoir une facture énergétique qui soit abordable. Et aujourd'hui, ce qui est complètement délirant, c'est que si on nous fait une proposition à x2, ce qui est déjà énorme dans l'absolu, parce que nos prix de vente ne seront pas multipliés par deux, on va considérer que c'est un bon prix.
Vous avez l'assurance que vous ne serez pas éligible à ce guichet en 2023.
À ce stade.
Mais ça change tout le temps. C'est pour ça que
il est ouvert depuis hier.
Oui, mais nous avons choisi, samedi, comme beaucoup d'entreprises, depuis maintenant fin septembre, qu'on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé. C'est pour ça qu'on a décidé de jouer à la montre. Parce que ça change tout le temps. Donc moi, j'espère que d'ici un mois, il va y avoir des révisions, des modifications. Mais je sais que le 15 décembre, 15-20 décembre, quoi qu'il arrive, nous allons devoir prendre une décision et signer.
Mais qu'est-ce que vous en pensez,
Isabelle Jobbazil? C'est étonnant sur cette période de référence qu'on choisisse 2021, puisque comme ça a été dit, la plupart des entreprises avaient des contrats à terme, ou des contrats ou d'un an ou de trois ans, et donc ils n'ont pas eu la répercussion de l'envolée des prix de l'énergie. Et donc de mettre sur 2021, oui, ça semble un petit peu étonnant qu'ils aient pas, compte tenu des propositions que vous avez, où vous avez une multiplication par 6, 7, 10, 15 du prix de l'énergie, ça soit pas justement ces propositions-là, enfin le fait que vous rentriez dans un contrat qui soit pris en compte.
C'est pour ça que je pense que le problème n'est absolument pas réglé. Donc non, tout ne va pas bien, Madame la Marquise.
Ça amène d'ailleurs à poser une question un petit peu plus large. Est-ce qu'on est dans la bonne direction en décidant de subventionner encore principalement la demande en 2023, puisque en brut, le bouclier tarifaire pour les particuliers, il pèse 45 milliards d'euros, et la somme mobilisée pour les entreprises est de 10 milliards d'euros. On fait exactement le contrat des Allemands. Et là, il y a peut-être une... Vous n'êtes pas d'accord, Christian Chavagneux?
Le chômage partiel, quand même, qui nous vient de l'Allemagne, c'était quand même un gros soutien au pouvoir d'achat et à la demande.
Oui.
Donc, dire que les Allemands font de l'offre et nous, on fait de la demande...
En tout cas, dans les 200 milliards qui sont annoncés, qui seront d'ailleurs probablement pas intégralement dépensés...
Ce ne sera pas 200 milliards.
Oui, ce ne sera pas 200 milliards.
Vous savez ce que font les Allemands en ce moment à la Commission européenne? Ils disent que les entreprises françaises, depuis des années, bénéficient de l'AREN, c'est-à-dire de prix cassés de l'énergie, que c'est un avantage compétitif dingue pour les entreprises françaises.
C'est une anomalie, l'AREN.
Et qu'ils essayent de casser à Bruxelles et que Bercy, quel que soit le ministre, passe son temps à défendre. Donc, il n'y aura pas 200 milliards et les Allemands sont en train de nous attaquer en disant que les Français ont un avantage compétitif. Et le ministre qui s'exprimait sur Inter samedi avait l'air de dire que les 3% plus votre facture, votre contrat, suffit de télécharger votre contrat sur la DGFiP, sur impots.gouv.fr, pour recevoir pratiquement automatiquement l'aide. Donc il faudra quand même vérifier cette histoire de 2021-2022.
Je peux vous dire que je l'ai vérifié pas plus tard qu'hier avec un représentant du gouvernement local. Donc je pense que je ne citerai pas, donc on ne peut pas mieux faire.
Et votre fournisseur d'énergie, qui c'est?
C'est Total Energy.
D'accord, juste pour savoir...
De toute façon, il n'y en a pas 50. Hein.
Oui, non.
Vous avez... Voilà,
ce qui était frappant, c'est de voir que cette année, pour la première fois, vous l'avez reçu en recommandé.
Oui, mais...
Ça, c'est quand même... Voilà, elle est un peu spéciale, elle est un peu salée, donc on va l'envoyer en recommandé.
C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant même de l'ouvrir... Je me suis douté du contenu.
Ben oui, forcément, ça ne pouvait pas être un contenu sympathique.
Il
n'y
avait pas besoin de sortir d'HEC.
Quand même,
Non, je voulais revenir. Pour moi, c'est un faux débat, cette histoire.
Quoi, d'offre demande?
Oui.
Pourquoi c'est un faux débat?
Mais regardez,
à chaque choc depuis le premier choc pétrolier.
Je pense que c'est la bonne articulation qu'il faut avoir entre l'offre et la demande. Parce que quoi qu'il en soit, si vous faites des choses pour les entreprises, mais qu'il n'y a pas de demande, ça va être une problématique aussi.
C'est une histoire d'œuf et de poule.
Voilà, oui, exactement. Donc, lorsque vous êtes face à un choc où aujourd'hui, on se répartit une facture, on se répartit des pertes, donc on essaye de faire au mieux entre les entreprises, les ménages, mais c'est la bonne articulation entre les deux, puisque un défaut de demande se répercute sur les entreprises, et si les entreprises vont mal, c'est plus de chômage, c'est moins d'activité, etc., et ça se répercute également sur la demande.
Oui, donc Isabelle, mais quand la demande est artificiellement soutenue, ça augmente la consommation de produits importés, ça a un effet inflationniste.
Oui, non, mais regardez, les entreprises françaises ont un taux d'investissement absolument incroyable. Les entreprises françaises continuent à embaucher. Même l'OFCE, qui sont des spécialistes de l'emploi, ne comprennent pas comment il y a autant de niveaux d'emploi. Oui. Donc, quelque part, c'est bien parce que si vous vous dites que le pouvoir d'achat des gens est préservé,
ça vaut le coup d'investir.
Ça vaut le coup de se dire, je garde les gens, je les vire pas, voire j'en embauche. Donc, il y a quand même une relation, je suis d'accord avec Isabelle, il y a quand même une relation entre l'offre et la demande. C'est quand même basique en économie. Il y a pas, on soutient la demande et puis ça n'a pas d'effet sur l'offre, on soutient l'offre.
Elle va la chercher à l'extérieur.
Oui, non, mais je suis d'accord. Plus, d'accord.
Enfin, voilà, c'était...
Plus quand même, Gérard.
Mais on a quand même pendant des années demandé aux Allemands de travailler un peu sur la relance de la demande, et vous êtes d'accord avec moi, ça n'a pas été le cas pendant bien longtemps.
Ça aurait fait du bien, ça c'est sûr. Mais le chômage partiel, c'est quand même une aide beaucoup en Allemagne, c'est une aide à l'allemande, c'est une aide à l'emploi, c'est une aide au pouvoir d'achat.
À la fois sur les deux, quoi, sur les entreprises.
Rappelons quand même que d'après les chiffres de Gérald Darmanin, il y a 140 milliards d'aides aux entreprises tous les ans. Il y a eu un calcul qui a été fait par l'IRES qui met ça à 157 milliards, 157.
C'est le chiffre, effectivement, oui.
Donc, on est autour de 4 points de PIB d'aide en permanence aux entreprises. Il y a plus de 2000 guichets. Et évidemment, je pense que quand on est un chef d'entreprise, il faut avoir quelqu'un qui vous aide, parce qu'il y a plus de 2000 guichets d'aide pour un total de plus de 4 points de PIB en permanence, en dehors de toute période de crise. C'était pratiquement rien à la fin des années 70. On est à 4,5 de points de PIB aujourd'hui.
C'est principalement les allègements de cotisations.
Mais si on regarde,
c'est 140.
Il n'y a pas que ça.
Les poids lourds, ce sont les allègements de cotisations, notamment sur les plus bas salaires. Ça a été le CICE.
Il y a plein de choses. Vous avez une liste comme ça. D'ailleurs, c'est amusant, entre guillemets, pardon de l'expression, mais ça fait quand même des années que les chefs d'entreprise nous disent que le seul souci important en France, c'est le coût du travail. Tout d'un coup, on s'aperçoit en Allemagne, on s'aperçoit en France que le coût de l'énergie, c'est quelque chose aussi, que la dépendance à l'énergie et à vos fournisseurs, c'est quelque chose d'important aussi, que tout d'un coup, les prix de l'énergie, quand ça se met à secouer dans tous les sens, il faudrait peut-être avoir des marchés un peu mieux régulés. J'espère que Laurent et tous les autres chefs d'entreprise vont se dire, ok, on a peut-être un travail à faire sur le coût du travail, mais sur les coûts de l'énergie, il y a des choses à faire aussi.
Non, on n'a jamais autant tenté la régulation sur les coûts de l'énergie, puisque quasiment tous les pays, et même jusqu'à Bruxelles, on veut plafonner.
Oui, et sauf que pour l'instant, il n'y a rien.
Mais oui,
mais vous savez pourquoi il n'y a rien? Parce que les Allemands
freinent. Parce que c'est l'Europe.
Mais parce qu'on sait très bien que la solution...
Isabelle Job,
la solution, elle est au niveau européen. ça sera pas, enfin, quel que soit le niveau d'aide qu'on va consentir, etc., finalement, ce qu'on doit faire, c'est de voir comment on baisse le prix d'accès à l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, donc de voir comment on peut aussi déconnecter le prix du gaz de l'électricité. Et ça, c'est des décisions au niveau européen, avec effectivement la nécessité d'avoir une solidarité à cette échelle.
Ça s'appelle l'exception ibérique, en quelque sorte. Mais là, il y a des entreprises
qui... Oui, parce que le marché n'était pas... Enfin, l'Espagne n'est pas connectée au reste du marché, ce qui avait expliqué qu'il y avait eu la possibilité de les déconnecter du système sur lequel ils ne sont pas de toute façon connectés.
Sauf qu'il y a plein de PME qui se demandent si elles ne vont pas aller vivre en Espagne ou au Portugal en ce moment. Ça. À cause de ça.
Non, mais c'est pour ça qu'il faudrait ça soit une décision au niveau européen qui permette ou plafonner ou trouver des mécanismes.
Passer au coût moyen plutôt qu'au coût marginal déjà.
Oui, ou au coût marginal.
Mais le coût marginal
moyen,
dans un monde qui fonctionne, ça fonctionne très bien.
Mais
en
oui,
fait.
Bah, de toute façon, c'est le principe d'une économie de marché. C'est le principe d'une économie de marché.
Oui, Laurent
Vronsky.
C'est un peu la question qu'on posait hier. Est-ce que le bouclier tarifaire a été un bon choix politique? Oui, répond l'Institut des politiques publiques et le CEPREMAP de l'École d'économie de Paris dans une note de la semaine dernière.
Mais moi, je voudrais répondre à...
Sur les aides, les 140 milliards.
Je voudrais répondre à Christian sur deux choses. D'abord, je ne suis pas en train de réclamer l'ouverture du énième guichet d'aide, et je suis contre les aides. Et s'il n'en tenait qu'à moi, je ne veux pas dire moi président, paraphraser quelqu'un, mais s'il n'en tenait qu'à moi, on les supprime toutes. Mais attention, on fait aussi pareil sur la fiscalité, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les taxes imbéciles, la CVAE, les impôts de production, etc. Mais je suis contre les aides. Et pourquoi je suis contre les aides? Pour une raison très simple, c'est que ça crée une relation malsaine entre celui qui les donne et celui qui les reçoit. Et ça crée, si vous voulez, une forme d'accoutumance cocaïnomane. Donc je suis contre les aides et je ne suis pas en train de réclamer une énième aide. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur l'histoire des coûts d'énergie. Alors, je suis désolé, Christian, mais j'ai pas attendu 2022 pour m'en soucier. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous, si vous voulez, nos produits utilisent massivement de l'énergie. Donc, on est parfaitement conscient de ça. Simplement, en tant que chef d'entreprise, on s'intéresse sur ce qui est à la une du téléscripteur à l'instant T. Donc, il se trouve que le coût du travail a été pendant des décennies un vrai problème. La flexibilité du monde du travail a été un vrai problème. Aujourd'hui, on a un problème qui est inconnu. En 35 ans de carrière, je n'ai jamais connu des coûts multipliés par 50 en si peu de temps. Jamais. Mais comme il y a 2 ans et demi, je n'avais jamais vécu de pandémie, comme tout le monde, et j'ai dû mettre en œuvre des tas de choses. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que c'est un problème de préscience. Mais aujourd'hui, les événements se succèdent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai parallèle entre la météo que nous connaissons tous et la météo économique. Depuis 3 ans, regardez le nombre de crises. On a une crise sanitaire, une crise des matières premières, on a une reprise de l'inflation, ça fait 3, et maintenant on a une crise énergétique. Tout ça en même pas 3 ans. Donc on s'adapte. Donc je pense simplement que le système, et je ne suis pas le spécialiste, mais le système aujourd'hui de la production électrique en Europe, je dirais, est un système qui est extrêmement compliqué avec des indexations. Alors il y a toujours des bonnes raisons à tout, mais alors le gaz et l'électricité sont liés. Alors soit on a un système qui est complètement étatique, avec un monopole, soit on a un système qui est complètement libre. Mais souvent, ma modeste expérience, c'est que les systèmes hybrides fonctionnent bien à l'instant T et ne fonctionnent pas quand les conditions changent. Et enfin, j'en terminerai. Pour moi, ce qui se passe actuellement avec les coûts de l'énergie, je veux dire, l'Europe a fait un choix politique vis-à-vis de la guerre en Ukraine. C'est pas à moi de juger si oui ou non c'était le bon choix. Mais donc, c'est une décision au niveau européen, et donc elle a créé un choc énergétique au niveau de l'Europe. Il n'y a pas de problème énergétique en Amérique du Nord, et il n'y a pas de problème énergétique en Asie.
C'est ça le vrai problème.
C'est un choc de compétitivité majeur.
Quand on parle entre nous de distorsion de concurrence entre l'Allemagne et la France, excusez-moi, mais on se trompe de débat. Oui. Moi, aujourd'hui, mon problème principal, il est avec les Américains et la loi IRA, qui est la loi la plus protectionniste depuis les années 30, et avec ce qui va se passer en Asie. Il est là le problème.
Entièrement d'accord.
Et c'est pour ça qu'on devrait faire front et bloc au niveau européen.
Et donc la question que l'Europe doit se poser, c'est comment je protège mon tissu industriel tout en assumant mes décisions politiques. Oui. Et là, que les États européens se réunissent et trouvent un moyen de sauver leur patrimoine économique, ça me paraît tout à fait légitime. Mais ouvrir un énième guichet d'aide pour la énième aide auquel généralement personne ne comprend rien la première fois qu'elle est pondue, je suis contre.
Sauf que les entreprises chinoises, les entreprises américaines, elles vont aller au guichet et largement. Donc vous pouvez refuser les aides, mais attention.
Je ne suis pas complètement stupide. Si les aides existent aujourd'hui,
on les prend.
Seulement, je pense qu'il faut revoir le logiciel complètement.
Non, mais et c'est certain. Enfin, moi, je pense qu'on s'inflige hein, depuis des mois. On a fait un choix politique, mais on s'inflige. Attendez,
la Russie a fait un choix politique. Oui, c'est pas les Européens qui ont fait un choix politique d'aller à la guerre. C'est les Russes qui nous imposent ça.
Vous avez raison, Christian.
Bien sûr. La Commission européenne,
bien sûr.
On est d'accord.
Mais dans ces cas-là, il faut s'y préparer.
Assumer derrière de se dire. On a du coup un choc de compétitivité majeur et je suis d'accord que c'est l'Europe qui doit faire bloc vis-à-vis des États-Unis et de l'Asie.
Et donc
trouvons des solutions au niveau européen. On s'inflige une douleur qu'on pourrait éviter en prenant les bonnes décisions.
L'Élysée a fait fuiter le fait que Emmanuel Macron avait proposé à Monsieur Scholz d'aller tous les deux voir Xi Jinping en Chine. Et vous avez vu le résultat. Scholz y était tout seul avec ses chefs d'entreprise. D'un côté, pour la Chine, en disant c'est des marchés, pas pour l'Europe ou le franco-allemand, des marchés pour moi. Et alors que la dépendance du gaz russe, quand même, montre à l'Allemagne, devrait monter aux dirigeants allemands, aux dirigeants économiques et politiques. Il y a quand même un problème. Que fait M. Scholz? Il court après l'Algérie, il court après le Sénégal, maintenant, qui a des grosses réserves de gaz, pour déplacer sa dépendance au gaz russe à sa dépendance au gaz de plusieurs autres pays qui, dans la conjoncture géopolitique de demain, ne l'assurent pas plus d'avoir du gaz à bon prix et à bon marché et de manière régulière.
Chacun pour soi et du pour tous.
On aura un pouvoir de négociation que si on fait
exactement.
Alors, on est un gros acheteur.
On va marquer
et là on l'a pas. Bon. Et là on l'a pas.
Ça m'amènera à vous poser une question qui était prévue un peu plus tard, mais qui va directement dans la continuité de ce qu'on vient de se dire. On marque une pause. Je vous dirai ce que vous pensez de l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. C'est quand même l'une des croisades menées par Bruno Le Maire pour essayer de répondre à ce qui s'apparente ouvertement à des mesures réellement protectionnistes du côté américain. Et puis ensuite, on dira quand même un mot, bien sûr, de l'assurance chômage et de la mise en garde du FMI. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Isabelle Jopazil, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques, qui a publié les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à la ferme Madoff au Seuil, à la une du numéro de novembre qui devrait s'afficher sur l'écran, retraite. Pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ? Je demanderai à Christian, je lui poserai cette question, puisque ça fait partie notamment des recommandations du fait de la fameuse note du FMI qui a été publiée hier. Et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité directeur d'Espérance Banlieue.
Comité stratégique.
Comité stratégique. Bon, il faudra quand même que je me le note définitivement. L'IRA, qui n'a rien à voir avec l'Irlande, de Biden, ça vous hérisse le poil, Laurent Vronsky?
Oui, parce que pour nos auditeurs, c'est la nouvelle arme fatale dont se dotent les États-Unis. Il ne faut pas s'y tromper. C'est une arme de réindustrialisation massive. C'est sans doute un ensemble de dispositions qui sont sans doute les plus protectionnistes depuis les années 30, qui est complètement contre le libre-échange, etc. Et donc, ça veut dire que nous, par rapport, je dirais, à cet ensemble de lois, c'est pas la première fois que l'Amérique se dote d'outils absolument redoutables, comme l'extraterritorialité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez être redevable vis-à-vis de la justice américaine si vous faites une transaction en dollars n'importe où dans le monde, hein, même à Bécon-les-Bruyères. Hein. Et donc, face à ça, j'ai l'impression que il se passe pas grand-chose. Et moi, je suis assez catastrophé parce qu'il faut pas rêver, quoi. Je veux dire que ça veut dire forcément un impact absolument substantiel sur l'économie de la zone euro, sur nos entreprises, et que le seul moyen pour nous de réagir par rapport à ça, c'est de faire corps, et une fois de plus, de se retrouver entre Européens et que chacun prenne pas sa petite valise de VRP pour essayer de sauver ses intérêts. Je veux dire que par rapport à une loi aussi massive, on doit, nous aussi, Européens, trouver la riposte à ça. Donc, quand j'entends parler de cette loi et que pour l'instant je ne vois pas la contrepartie, je dois vous avouer que c'est une source supplémentaire d'inquiétude. Et je pense qu'en ce moment, on n'en a pas besoin.
Alors, une réaction à ça?
Non, mais pour ceux qui nous écoutent, me semble-t-il, donc c'est des crédits d'impôt pour des achats d'équipements en particulier, pour des achats d'automobiles aux États-Unis, où vous avez une modification de 10% si 40% de l'équipement est produit aux États-Unis. Et là, pour le coup, on a un aspect discriminatoire qui fausse la concurrence, qui pourra amener les Européens, s'ils le souhaitent, s'ils font bloc, d'aller à l'OMC pour faire valoir leurs droits et de dire qu'on est dans une concurrence déloyale ou de subvention. Enfin, ça doit tomber dans le régime des subventions qui ne sont pas compatibles avec les règles de l'OMC.
Il n'y a que les Européens qui croient au libre-échange et à la concurrence libre et non faussée. Tous les pays asiatiques, Chine en tête et les États-Unis et gouvernement américain en tête, ne pratiquent pas le libre-échange, ne pratiquent pas la concurrence libre et non faussée. Ça, depuis les années 60, les grandes innovations américaines sont faites avec de l'argent public, avec de la subvention publique, avec des contrats et de la commande publique. Alors nous, les pauvres Européens, on est là, mais non, mais il faut de la concurrence. Et puis surtout, même pas besoin de réciprocité. Nous, on ouvre nos marchés, vous, si vous ne les ouvrez pas, c'est pas grave, parce que nous, on va être le lourd avis de la crèche libérale. Ben voilà, ça ne marche pas. L'IRA, quand même, c'est quand même deux choses. Il y a tout ce qu'a dit Laurent. Il y a aussi le plus gros effort public, d'investissement public aux États-Unis pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est quand même quelque chose de très, très important. Enfin, les États-Unis s'y mettent. Enfin, donc ça, je prends. Pour l'autre côté, mais c'est la poursuite de ce qui se fait depuis 50 ans. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore à l'OMC parce que les représentants européens sont en train de négocier avec les États-Unis. On nous dit, je ne sais pas si c'est vrai, on nous dit, les Américains n'avaient pas vu l'effet que ça allait avoir sur... Et donc maintenant qu'on leur montre que l'effet peut être très important pour leurs partenaires européens, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont faire que... Mais qui est à la manœuvre? C'est peut-être pour ça que ça va réussir. C'est l'industrie automobile allemande. Et donc c'est le gouvernement allemand, parce que c'est eux qui vont notamment être les premiers touchés. Mais ne croyons pas qu'on était dans un monde de libre-échange et que tout d'un coup les États-Unis sont les méchants. Ils ont toujours avancé comme ça. Et maintenant quand vous regardez sur l'aspect technologique, je viens de lire deux études, dont une de la Commission européenne absolument affolant, en termes d'innovation technologique, notamment aidé par le gouvernement américain, les États-Unis restent le leader mondial et la Chine est en train, sur toutes les grandes révolutions technologiques, la blockchain, l'ingénierie du génome, etc., les 5-6 plus grandes, est en train de dépasser, soit est au niveau, soit déjà largement dépassé l'Europe. L'Europe est en train d'être marginalisée sur le plan technologique. Vous avez peut-être vu hier, enfin, va s'ouvrir aujourd'hui ou demain les aspects spatiaux et les responsables de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, nous disent si on ne fait pas plus 25% par an de budget, on est mort aussi dans le spatial. L'Europe est en train de devenir un nain économique déclassé sur le plan technologique. Les mots sont forts, mais déclassé sur le plan technologique mondial. C'est quand même gravissime.
Et il y a une étude qui est faite par la Commission européenne dans le cadre de l'autonomie stratégique, où ils avaient regardé sur les grands secteurs de technologie de demain, ce dont ils avaient besoin, et de montrer nos dépendances. Et effectivement, ce qui ressort autant en termes de matières de première que de composants, que de filières de raffinage pour ces matières premières, que d'assemblage, c'est soit la Chine, soit les États-Unis, un peu l'Afrique sur les matières premières.
Laurent, oui, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, c'est-à-dire que je sais qu'on va aborder le sujet de la tentation de délocaliser suite à la remontée fulgurante des coûts énergétiques, mais il y a deux vraies raisons qui peuvent inciter les entreprises à aller aux États-Unis. Il y a l'IRA, ça en fait partie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le fait de ne pas produire localement aux États-Unis, ça vous déclasse au niveau économique, vous n'êtes plus compétitif. Donc il y a deux bonnes raisons d'aller aujourd'hui aux États-Unis. Il y a l'IRA et il y a la facture électrique. Maintenant, sur ce que dit Christian. Alors, je veux dire, je ne pense pas être frappé d'angélisme. Pour une raison très simple, moi j'ai vécu 8 ans aux États-Unis, donc j'ai très bien vu ce qui se passait. Quand on parle, par exemple, de SpaceX avec Elon Musk, il faut bien être conscient que c'est un projet public mené par un entrepreneur.
Les vaccins, ça a été la même chose.
Là-dessus, je veux dire, quand vous allez à la Silicon Valley, je veux dire que l'un des premiers investisseurs historiques, c'est le gouvernement américain. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas être frappé d'angélisme. Donc moi, je ne suis pas là, si vous voulez dire, les Américains ne sont pas gentils et nous, on est gentils. Simplement, je suis toujours un petit peu étonné, je ne fais pas une leçon de choses à l'antenne, je suis toujours un petit peu étonné de cette espèce de naïveté auquel on a fait face vis-à-vis de nos alliés américains, ce sont nos alliés, vis-à-vis des Chinois, effectivement, on ouvre les marchés, on met des normes en place, on ne vérifie pas que ces normes soient respectées. On est inondé de produits qui sont faits dans des conditions qui n'ont rien à voir avec nos critères. Enfin, vous connaissez ça comme moi. Et effectivement, après, on est par contre les champions du monde pour faire des statistiques pour calculer les dommages. Voilà, les pertes. Bon.
Et ensuite, on se répartit les pertes. Voilà. Et comment
Donc là, maintenant, je pense qu'on est vraiment à un carrefour de l'histoire. Et je pèse mes mots. Je pense qu'on a deux challenges absolument phénoménaux. Il y a d'abord un vrai challenge avec un tsunami énergétique. Et ça, moi, je ne sais pas comment ça va se résoudre. Mais il faut que l'Europe s'arme. Je dis bien l'Europe et pas chaque petit pays. Et deuxièmement, je pense que l'IRA est une arme de réindustrialisation massive des États-Unis et que nous, Européens, si on ne veut pas devenir complètement à la marge, je veux dire que ce n'est pas compliqué, si on n'est pas à la table des négociations, on va finir au menu, quoi.
Oui. Et puis en plus, on se retrouve, je trouve que l'Europe aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé avec les crises, en fait, finalement, un des grands gagnants de la crise, je dirais, si ce n'est pas le seul grand gagnant de la crise, outre les pays producteurs de gaz et de pétrole, ce sont bien les États-Unis.
C'est les États-Unis, au travers.
Et on aurait tendance à voir que on est de plus en plus vassalisés par les États-Unis sur les questions énergétiques, où on va chercher le gaz naturel liquéfié, c'est de plus en plus aux États-Unis. On a ce parapluie de l'OTAN qui s'est même renforcé à l'occasion de la crise, avec des États-Unis qui ont pas mal d'atouts en termes d'indépendance énergétique, en termes d'autosuffisance alimentaire.
Et le dollar,
ils ont le dollar, et le dollar qui effectivement
et technologiquement
voilà, et la technologie. Et on a l'impression qu'effectivement le maillon faible.
Mais on est tous d'accord. Le problème, c'est que les réponses opérationnelles à ce que vous décrivez tous, elles sont pas là.
Ben, c'est surtout qu'elle doit se décider au niveau européen. Ce n'est pas chacun des pays qui doit faire sa petite cuisine et effectivement aller prendre son bâton de pèlerin pour essayer de grignoter quelque chose dans ce monde conflictuel.
Mais pardon, mais les réponses que tout le monde réclame, c'est beaucoup plus de dépenses publiques pour l'instant. Je ne sais pas si on va parler du fait qu'on a trop de dépenses publiques en France, mais là, tout ce que vous réclamez, c'est plus de dépenses publiques. Faut quand même le signaler.
On n'a pas de budget européen, donc ça te fout, quasi pas.
Ou une somme nationale, des sommes nationales.
Ne pas être dupe, ne pas être naïf, ne pas ouvrir ses marchés sans avoir une ouverture en contrepartie. Ça, c'est pas la dépense publique. Ça, c'est du bon sens économique.
Toute la commande publique qui fait le développement technologique des États-Unis, ça n'a pas été fait gratuitement.
Oui. On est d'accord.
Beaucoup de commandes publiques, c'est des points de PIB et des points de PIB.
Mais ça a été aussi une stratégie américaine qui est juste l'inverse de la stratégie souvent utilisée par les pays européens, où on fait des investissements d'avenir, on arrose un peu partout et on ne sait pas trop où ça atterrit. Aux États-Unis, c'est les projets viennent d'en bas et effectivement, ceux qui sont considérés comme des projets vraiment d'avenir, à ce moment-là, peuvent être sélectionnés et financés par de l'argent public.
C'est la fameuse Barda. Impulsé par le militaire, par les dépenses militaires.
Et on a le droit de se tromper. L'année où les États-Unis donnent 500 millions de dollars à Tesla pour se développer, ils donnent aussi 500 millions de dollars à Solingra, qui est une entreprise américaine qui va faire des panneaux photovoltaïques complètement pourris et qui va tomber en faillite. Et donc on dit, regardez, l'État ne peut pas choisir. Sauf que la même année, l'État a choisi Tesla. Le problème, c'est que quand l'État se comporte comme ça en manière technologique, comme un acteur private equity qui vient apporter.
C'est à peu près ça, oui.
C'est à peu près ça, qui vient apporter.
Il sait qu'il y aura des pertes.
Fait ses choix. Il y a des paris gagnants et des paris perdants. Quand le pari est perdant, c'est l'État prend la paume. Mais quand le pari est gagnant, par contre, le private equity, eux, ils touchent ce qu'ils ont mis. Mais l'État américain, il touche rien du tout. Alors, après, s'il y a des profits, il y a des impôts. Mais il faudra une sorte, si l'État joue, et comme le joue l'État américain, le rôle du private equity pour développer les nouvelles technologies, à ce moment-là, il va y avoir un retour sur investissement de l'argent public. Et pour l'instant, il n'y a pas.
On va avancer quand même.
Non, mais c'est juste l'idée qu'on privatise les profits et qu'on socialise les pertes.
Exactement.
Vous vouliez quoi? Alors par rapport à ce que dit Christian, je veux dire qu'aujourd'hui notre pays, je trouve un magnifique outil qui est très très performant, c'est BPI. Et je veux dire qu'aujourd'hui BPI fait du private equity, je veux dire que c'est un organisme public, mais je veux dire fait un travail sur le terrain qui est absolument remarquable. Je ne suis pas subventionné par BPI, je le tiens à le préciser, mais je veux dire que moi j'ai été dans un accélérateur industriel, c'est absolument formidable, ils sont sur le terrain, ils font des financements, ils trouvent des solutions à des entrepreneurs. Donc je veux dire enfin, je veux dire on a quelque chose, je dirais qui est pas mal. Maintenant si on pouvait faire ça au niveau européen.
Oui, mais parce que BPI a réussi à installer son indépendance, à fonctionner de manière comme une vraie banque.
Absolument.
Et la présence de Nicolas Dufour qui est sûrement pour beaucoup, parce que souvenez-vous, au début, on a un peu redouté que ce soit la chambre d'enregistrement des désirs politiques en fonction de la météo, de la météo des urnes. Hein.
Et puis aussi, je vais juste terminer quelque chose, parce qu'on est une puissance normative en Europe et on peut aussi beaucoup jouer sur. On peut essayer de jouer sur les normes et les standards internationaux.
C'est terrible, on n'arrête pas de se désespérer de tout là depuis un quart d'heure.
On est une puissance normative, notamment sur les critères ESG. On est plutôt en avance de phase.
Regardez le RGPD, on est une puissance normative. C'est complètement contourné par l'Irlande. Regardez REACH, on est la première zone au monde à avoir mis en place des normes pour éviter que les produits chimiques qui sont dangereux soient là. Vous regardez, il y a un sociologue qui a pris 3 ou 4 produits très dangereux. REACH dit produits trop dangereux, il ne faut pas les mettre sur le marché. Ils y sont toujours, parce que le temps que la procédure se mette en place, que les entreprises répondent, que machin, ils sont toujours vendus aujourd'hui. Donc la puissance normative, moi, j'y crois pas. Enfin, oui, c'est vrai, mais avec peu d'efficacité.
Il y a cet auditeur qui s'appelle Boris qui m'écrit, votre invité devrait reconnaître que l'une des explications majeures de la hausse des embauches est quand même le fruit des réformes du droit du travail. On l'évoquait en début d'émission avec vous, Christian Chavagnier.
Il s'est dit que le coût du temps... Évidemment, quand on est au niveau macroéconomique, chaque chef d'entreprise et moi, en tant que président du CA d'Alter Eco, je vais vous dire non, c'est pas vrai dans mon entreprise, mais l'INSEE nous dit que le coût du travail, c'est 18%.
Il n'y a pas que le coût du travail, il y a toutes les réformes El Khomri et Pénico, qui n'étaient pas que des réformes de coût du travail.
Oui, mais en tout cas, c'est une part 18%. Bon, c'est quand même pas la part la plus importante du coup. Mais chaque entreprise vous dira que son cas est particulier.
Laurent Vronsky.
Non, moi je pense pas que mon cas est particulier. Mais je mets ma casquette croissance plus. Donc des chefs d'entreprise, j'en rencontre toutes les semaines. Et puis moi, j'ai pas besoin de l'INSEE. Je regarde le code du travail avec lequel je dois vivre 365 jours par an. Puis je regarde les feuilles de paye que nous payons tous les mois. Donc cet auditeur a parfaitement raison. Je veux dire que les choses se sont assouplies et c'est tant mieux. Et plus le marché du travail est flexible, plus ça va nous aider à épouser un relief qu'aujourd'hui, personne ne peut prévoir. Il faut bien être conscient d'une chose, et je ne suis pas en train de me lamenter, on nous demande aujourd'hui de conduire une voiture à haute vitesse avec une pluie battante, et il y a les essuie-glaces qui ne fonctionnent plus. Donc, en clair, on a une visibilité qui est au niveau des phares.
Christian, j'aimerais avoir votre avis sur la réforme de l'assurance chômage. C'est quand même l'un des sujets qui est au sommet de l'actualité. Donc, on a maintenant les arbitrages. Je ne vais pas vous refaire tout le détail des chiffres qui font qu'on passe de période rouge à période verte. En tout cas, la clé, c'est qu'en fonction de la météo de l'emploi, eh bien, il y aura une diminution de la durée d'indemnisation d'un quart. Ça veut dire que là où, avec tous les droits, on pouvait avoir jusqu'à 24 mois d'indemnisation, on tombera à 18 mois. Et il est vrai que si on a ouvert que 10 mois, par exemple, eh ben, on perd un quart, on perd 2 mois et demi d'indemnisation. Les Échos écrivent aujourd'hui, c'est une bien sage réforme du chômage. Qu'en pensez-vous, Christian Chavagneux ?
C'est accablant. Franchement, c'est accablant.
Dites-moi pourquoi, mais je vous écoute.
Parce que le jour où il y a des chômeurs qui retrouvent du travail, ceux qui ne retrouvent pas de travail vont être punis. Parce que quand le chômage baisse, quand on passe en période
verte,
ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient au chômage et qui ont retrouvé du travail. Et tant mieux pour eux. Ah, mais vous n'avez pas trouvé de travail. Eh bien, puisque vous, il y a des chômeurs qui ont trouvé du travail, vous n'en avez pas trouvé, eh bien, vous allez être punis. Alors, déjà, 6 mois de moins. Et combien ça peut rapporter? On dit 3,5 milliards, 4 milliards.
Les syndicats disent 4 milliards par an.
4 milliards. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut prendre un exemple concret. Monsieur Ferracci, qui est le rapporteur de la loi, qui est député Renaissance pour les Français de la Suisse et du Liechtenstein, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous dit dans le JDD, à chaque fois que vous allongez d'une semaine la durée d'indemnisation, vous incitez les gens à rester entre 0,1 et 0,4 semaines de plus au chômage et à ne pas sortir, d'accord? Prenons le 0,1. Mathieu Grégoire, qui est un spécialiste du travail, a fait ce petit calcul. Prenons quelqu'un, il faut prendre des exemples concrets, quelqu'un qui gagne 2000 euros. Qui va se voir privé de 6 mois, d'accord, 6 mois de moins d'indemnisation chômage. Si c'est 0,1, si on a gagné 0,1 de chômage, on a gagné 18 jours de chômage. Il va perdre 6 000 euros. Donc, pour quelqu'un qui va rester 18 jours de moins au chômage, vous allez le priver d'un pouvoir d'achat de 6 000 euros. Voyez le coût accablant que vous faites peser sur des chômeurs que vous punissez alors que les autres chômeurs sont en train de trouver du travail. C'est complètement accablant. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que les gens qui ont de toute façon beaucoup de mal à retrouver du travail, ils vont finir au RSA. Et pourquoi vous croyez que dans la liste des exceptions, il y a les territoires ultramarins? Parce que les chefs
de... Parce que le chômage est très important.
Parce qu'il n'y a pas de travail, parce que le chômage n'a pas, parce que le RSA explose déjà.
C'est pour ça.
Et que ces gens-là vont passer du budget du chômage au budget au RSA. Ça, et que déjà ça explose, ça va surexploser.
Les territoires ultramarins sont en période rouge à vie.
Ça veut dire bien que le gouvernement sait très bien que ça va faire plus de pauvres et que pour faire plus de pauvres là où il y en a déjà beaucoup, on ne peut pas le faire. C'est accablant à tout point de vue.
J'ai entendu votre avis. Laurent Vronsky, Isabelle Job-Basile, par rapport à cette réforme dont les détails ont été connus qu'hier.
Je pense que quand on parle de l'assurance chômage, ça fait partie de ces totems qu'il y a dans notre pays. C'est les sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, ou quand on les aborde, il faut l'aborder avec l'angle du politiquement correct. Bon. Alors moi, j'ai une vision qui est un petit peu plus macro. J'entends ce que dit Christian. Simplement, je veux dire que notre pays aujourd'hui, je pense que est quasiment à bout de souffle. Je veux dire qu'on n'a plus la latitude qu'on pouvait avoir, on a une dette abyssale. C'est-à-dire on ne peut pas éternellement continuer, je dirais, à croire que l'argent tombe du ciel.
64 milliards,
premier constat. Aujourd'hui. Deuxièmement, aujourd'hui, puisque Christian nous disait, les chefs d'entreprise sont focalisés sur le coût du travail. Aujourd'hui, la première préoccupation,
c'est l'énergie.
L'énergie, oui. Ça, c'est pour ceux qui...
C'est le recrutement.
C'est le recrutement.
Oui, le recrutement. Donc, c'est passé en deuxième maintenant.
Chaque personne peut faire un test, il fait le tour du pâté de maison, même de ses commerçants locaux, et on va lui dire, non, on ne trouve pas de boulanger, on ne trouve pas de garçon pour travailler dans le café, etc. etc. Donc, il y a un problème de recrutement. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quand on voit le nombre de chômeurs qui existent dans notre pays, la demande qui est complètement dingue, puisqu'on est en train de mettre maintenant sur le débat public toutes les questions d'immigration. Est-ce qu'il faut donner des visas, pas des visas? Est-ce qu'il faut autoriser, pas autoriser? Enfin, on voit, ça déchaîne les passions. Je pense que de s'intéresser au sujet de l'assurance chômage, et je sais que c'est complètement tabou de dire que oui, tout le monde recherche du boulot, mais je veux dire, On va pas se voiler la face. Je veux dire, tout le monde connaît des gens qui tirent sur la corde. Donc, mais oui, tout le monde en connaît. Oui, non, mais... Maintenant, la question, c'est comme souvent, c'est une question de proportion. Évidemment, on les a pas comptés un par un et on ne sait pas dire exactement de combien de personnes il s'agit.
Mais le ministère du Travail nous a dit, pardon, Laurent, 92% des chômeurs cherchent activement à travailler.
On s'attaque au sujet. Et je n'aime pas les termes de punition et de culpabilisation. Ah oui, qu'aujourd'hui, on s'intéresse au sujet et que l'on dise, voilà, bah, je veux dire que qu'on ait des indemnisations chômage qui, quelque part, plutôt d'être dans l'absolu, se calent par rapport à la santé de l'économie.
C'est la durée d'indemnisation, pas oui, le montant.
C'est la durée.
Donc, oui. mais je le précise.
Qu'on ait un système qui, en clair, épouse le terrain économique, moi, ça me paraît une bonne idée, c'est du bon sens. Maintenant, ça n'est pas le seul médicament. Et évidemment, on je pense d'accord. que le deuxième médicament, c'est de trouver une passerelle pour que cette masse de gens qui n'ont pas de travail puissent, si vous voulez, être incorporés dans cette masse de gens qui ont besoin justement de collaborateurs. Donc, le traitement est incomplet. Ouais. Il y a ça ouais. et ça.
Et il y a tout l'accompagnement. Et c'est
Isabelle
vrai.
Job-Basile, bah, par
c'est,
rapport
du
à
Du coup, c'est regarder pourquoi on a toutes ces difficultés de recrutement alors même qu'on a un taux de chômage qui est encore...
7,3.
Voilà, qui est encore...
Mais c'est très bien
encore...
7,3 puisqu'à 9%, on est au vert. Oui. À 9% de chômage, tout va bien dans l'économie française. Il faut réduire les indemnités des chômeurs à 7,3, Isabelle. Mais c'est le monde rêvé. C'est le monde rose, selon le gouvernement.
Mais donc... Comme je le disais, donc il faut regarder les raisons et en fait il y a trois raisons qui sont souvent invoquées. Il y a bien évidemment les problèmes d'appariement en termes de compétences, donc ça veut dire qu'il faut bien évidemment regarder comment on peut former notamment les gens qui sont les plus éloignés du marché
c'est
du travail.
Élément.
Donc
oui,
il y a vraiment
absolument.
L'aspect accompagnement en termes de formation. Il y a des problèmes de mobilité puisqu'en fait on regarde que les zones qui sont à fort taux de chômage et à faible taux de chômage et bien en fait reste stable dans la durée, donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire bouger les gens. Donc est-ce qu'il faut imaginer des mécanismes d'accompagnement au déménagement, etc., pour permettre ce meilleur appariement? Et puis ensuite, du côté des entreprises, on sait que dans certains métiers, il y a des problèmes d'attractivité, que ce soit en termes de salaire ou de conditions de travail.
Et ça, ce sont effectivement des éléments qui peuvent s'ajouter à cette réforme qui nous a été présentée hier, mais vous considérez qu'elle est complètement...
Moi, je suis assez d'accord que ça épouse... Que ça épouse la conjoncture.
À 9%, on est bien ?
À 9%, non, on n'est pas.
9% de chômage, on passe dans le vert. On réduit.
En dessous,
oui. Oui, 9, combien ouais. 7, 8, 5, 4,
3, 4. Oui, non, 9. Mais c'est tout le problème des seuils.
C'est 9 ou une variation.
Non, après, là où je.
Non,
mais là, ce que je dirais par rapport à Christian, là où il a raison, c'est que là où il y a 9, si au niveau national on a 9, ça veut dire qu'il y a des territoires qui vont se retrouver avec. En dessous de 9, il y a des territoires qui sont bien au-dessus de 9. Et là, pour le coup,
on n'a pas voulu régionaliser.
Mais je pense que
c'est le Canada qui l'a fait, justement par région.
Une usine à gaz.
Et là, pour être. Moi, la réflexion que je me suis faite hier, c'est de me dire, de toute façon, la nouvelle durée, c'est 18 mois plus 24. Voilà, c'est ça. Et ça va rester 18. Alors, il y a un plancher à 6 mois. Hein. Il n'y aura aucune indemnité inférieure à 6 mois.
Alors, après, ce que nous disent aussi les études, c'est qu'effectivement, plus on se rapproche de l'échéance, plus généralement, il y a une accélération dans la recherche.
J'ai envie de dire, c'est humain.
On gagne 18 jours. On va gagner 20 jours.
Non, mais c'est humain. C'est comme celui qui a...
C'est un phénomène d'incitation.
C'est comme celui qui a un DST qui n'arrive pas à se mettre à réviser. Et puis, les deux jours avant, il finit par y aller. Parce qu'il y a un peu... Voilà, c'est bon. Oui, encore quelque chose.
Oui, ce que je voudrais... On a beaucoup parlé de l'Allemagne. Moi, je vais prendre un exemple d'un sujet où, clairement, pendant des décennies, le dogme, je dirais, a eu autorité sur le bon sens et sur le pragmatisme. C'est l'apprentissage. Et ça, je pense que c'est un bon exemple. Parce que là pour les amateurs de chiffres...
Ça a progressé en France, l'apprentissage.
Voilà, justement.
C'est même considéré comme sur-subventionné.
Ça nous coûte une blinde.
Ceux qui adorent les chiffres vont en avoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant des décennies, et surtout dans les métiers manuels dont nous faisons partie? Je veux dire qu'en clair, quand on était apprenti. Alors, on disait, ah ben non, les apprentis, c'est de la manœuvre bon marché, on exploite les jeunes. Puis après, au niveau éducatif, on vous collait dans un lycée professionnel, c'est-à-dire qu'en clair, vous étiez perdu pour la société, etc. Les Allemands n'ont jamais, je dirais, abandonné l'apprentissage. Au contraire, ils ont toujours considéré, qu'on soit ingénieur ou manœuvre, que c'était une part intégrante du cursus académique. Et donc, c'est ce qui explique, ils ont aussi des problèmes. C'est pas non plus le paradis, mais ils ont su préserver une industrie, ils ont su préserver des métiers. Nous, il aura fallu des décennies pour qu'on s'attaque au sujet. On a fait une réforme de l'apprentissage qui est un vrai succès. C'est un franc succès. Et maintenant, il y a
8 000 euros l'entrée des plus de 18 ans.
Oui, puis ouais, enfin, moi, j'aurais tendance à dire...
Vous avez aujourd'hui...
Bah, enfin, au moins, c'est de l'argent public probablement à peu près bien utilisé.
Vous avez énormément de jeunes qui sont dans les entreprises. Vous êtes, je rappelle qu'on a une pyramide des âges qui fait que vous avez énormément de gens qui partent à la retraite là, dans les 10 ans à venir. Il y a un besoin de transmettre, de former, etc. Donc, je pense que c'est vital pour le pays, tout simplement.
Oui, mais c'est encore beaucoup, pardon Isabelle, beaucoup d'investissements publics, c'est encore beaucoup de dépenses publiques. Et le modèle de la flexi-sécurité au Danemark, on réduit les indemnités chômage pour les gens, mais on répond aux problèmes de mobilité, on répond aux problèmes de formation. C'est entre 4 et 5 points de PIB par an de dépenser. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 4 et 5 points de PIB par an de plus pour former les gens, pour accroître la mobilité en échange ?
Je ne suis pas contre l'argent public. Je suis contre le quoi qu'il en coûte et je suis pour le mieux qu'il en coûte.
Et donc c'est la question de l'efficacité de la dépense publique.
Voilà, mieux qu'il en coûte.
Voilà, c'est la question de l'efficacité.
Isabelle Job, vas-y.
Non, mais par exemple sur l'apprentissage, je pense que notamment puisqu'on dit que c'est largement subventionné, aujourd'hui ça profite, semble-t-il, sur les derniers chiffrages.
En plus, oui.
Ça profite beaucoup pour les activités de service, pour les jeunes diplômés, qui sont sur des niveaux qui n'auraient pas de problème.
On est très conscient à Bercy de ce problème.
Donc c'est peut-être, pour le coup, c'est encore mesurer l'efficacité de la dépense.
Exactement. On va faire un peu de réglage.
Il faut faire du réglage, bien sûr.
Voilà, il faut faire du réglage dans une logique d'efficacité de la dépense.
On ne va pas développer parce que je voudrais juste donner la parole pour vous dire un mot des retraites à Christian, mais voilà, la liste hier soumise par le FMI, ce que vous devez faire en France, c'est baisser des niches fiscales et baisser des dépenses. Les dépenses fiscales en faveur des combustibles fossiles, le crédit d'impôt recherche qui, on le sait, est bourré de défauts et d'effets d'aubaine, réduire le nombre de fonctionnaires, stopper les doublons entre les administrations territoriales et centrales, remettre à plat les minima sociaux car les régimes sont trop complexes, rémunérer les profs au mérite, baisser les dépenses de l'éducation nationale qui sont liées au personnel non enseignant. Voilà ce que nous dit le FMI. Mais,
attendez, il faut 5 quinquennats.
Après, il faudrait...
Soyez pas naïfs.
Naïfs de quoi ?
J'ai travaillé 5 ans au commissariat général du plan. Comment vous croyez que les articles 4 du FMI, comment vous croyez que les recommandations de l'OCDE, ça se fait pour les économies nationales? Vous allez rencontrer les gens de Bercy qui vous disent tu peux mettre ça dans le truc. Donc là, vous avez du discours macronien.
Je sais bien
le FMI nous dit que la France doit faire ça, c'est Emmanuel Macron qui dit.
C'est Emmanuel Macron. Voilà. D'accord, je sais bien qu'effectivement, ça se fait en accord avec le pays, mais tout ce qui est là-dedans n'est pas complètement aberrant.
La Cour des comptes, vous voulez de l'argent? Je vais vous donner 80 milliards d'euros. Vous voulez 80 milliards d'euros?
Je ne sais plus comment vous faites, mais. Vous me l'avez déjà fait.
Et Laurent veut bien un petit peu les 80 milliards d'euros.
Pour payer ma facture d'électricité. Il va tendre la main pour sa facture.
On a 2,40.
La Cour des comptes, à la fin juillet, fait un état des lieux, comme est fait chaque année, de l'état budgétaire de la France. Et la Cour des comptes, quand vous faites les baisses d'impôts, la somme des baisses d'impôts de Macron 1, ça fait 65 milliards. Les baisses d'impôts de Macron 2, et encore, comme le dit justement Bruno Le Maire, ils ont repoussé la baisse d'impôts sur les successions, l'allègement de la baisse d'impôts. Ça fait 15 milliards de plus. On est à 80 milliards de. On ne baisse pas, on ne revient pas au socialisme, on ne revient pas à l'URSS en 2017. Juste, on ne perd pas 80 milliards d'euros de recettes si vraiment vous voulez lutter. Bon. Et moi, ce que j'aime bien chez Emmanuel Macron, c'est que le déficit budgétaire, il n'en a rien à faire, et que le coût de la dette, il se dit à 110% du PIB, on peut monter à 130, 140, 150. La France a toujours remboursé sa dette depuis la Révolution française.
Oui, mais il n'y a pas de défaut.
Simplement, on
conserve malgré tout notre quasi-record de prélèvement obligatoire. Donc, c'est peut-être.
On a notre quasi-record du fait qu'on a peu de retraités pauvres. Qu'on rémunère bien les chômeurs, qu'on a des bonnes retraites et qu'on peut partir plus tôt. C'est un modèle social qu'on défend. Vous pouvez l'attaquer. Moi, je le défends.
Moi, je reste sensible à ce qu'on s'est dit sur la question de l'efficacité de la dépense publique.
C'est la question
de la protection sociale. C'est de plus être dans l'obligation de moyens, mais une obligation de résultats. C'est-à-dire de changer de logique sur la manière dont on envisage
le terme est dur.
Les dépenses au lieu d'empiler.
Pourquoi il est absurde de reporter l'âge de départ? Vraiment, en guise de teasing, parce qu'on n'a pas
parce que parce qu'on a l'exemple de passage de 60 à 62 ans et que ça a fait augmenter de 20 points le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est très bien, sauf que donc on est passé en gros de 35 à 55 de taux d'emploi. Donc on reste très en dessous des autres pays, donc c'est loin de faire le job. Et derrière, si vous regardez les ouvriers, le taux d'emploi c'est 25%. Si vous regardez les non-diplômés, c'est encore plus bas. Donc c'est juste, encore une fois, une façon. Et on a même un papier qui montre bien que c'est pas simplement un problème des non-diplômés ou des ouvriers, c'est que les cadres en ont marre et ne veulent plus rester au travail. Parce que la façon, je ne vais pas détailler, mais la façon dont on se réorganise dans les grandes entreprises, même les cadres, même les gens qui pourraient être tranquilles jusqu'à 65 et 67, en ont marre et veulent sortir. Donc par le bas, par le milieu, par le haut, tout le monde veut sortir. Donc dire, vous allez travailler encore plus longtemps, vous allez encore faire plus plus payer ça aux gens qui sont précaires. Ça va dans le même sens que la réforme du chômage. C'est ce gouvernement, c'est l'objectif de ce gouvernement, c'est de finir de tuer l'État social.
Après, comme vous l'avez dit, hein, le 60-62 ans, ça a effectivement augmenté le taux d'emploi. Et c'est quand
oui,
même
mais pas suffisamment, mais pas suffisamment. Et vous laissez de côté les plus précaires. Alors, si vous les laissez de côté les plus précaires parce que ça fait monter le taux d'emploi, c'est un choix, c'est le choix du gouvernement, malheureusement. Bon. Il fait ce choix.
On a fini. J'avais plein de choses à. Non, mais j'avais plein de choses à. Vous reviendrez, j'espère. Il y a plein de sujets dans ce que j'avais envoyé. Bon. Oui, il y a eu ce chiffre, là. Un jeune sur quatre ne fait plus confiance aux médias.
Ça a beaucoup intéressé.
Trois jeunes sur quatre font confiance aux médias.
Je peux dire juste une phrase
Une, alors, mais vas-y.
Alors, je m'adresse justement à ces jeunes. Ne croyez pas que la vie se résume en 140 caractères.
C'est plus aujourd'hui.
C'est plus aujourd'hui.
Merci. Christian Chavagneux avec donc les retraites à la une d'Alter Echo du mois de novembre. Laurent Vronsky, Isabelle Job-Basile. Rendez-vous demain 9h.